merci beaucoup à tous les trois. Et donc, la discussion est ouverte. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser.
Oui. Sur la séance autobiographique de Sabine Gautrin, en fait, quelle est la séance autobiographique?
On peut tous répondre pareil, c'est l'histoire du fait que Goethe a abandonné Frédéric Brionne et qu'on nous dit tout le temps qu'il en a ressenti un grand remords et comme par hasard, ça ressort dans plusieurs des personnages qui trahissent la femme aimée et qui le regrettent, quoi. Je crois que c'est ça le problème. Enfin, il me semble que c'est une dimension autobiographique première, voilà. Je ne pense pas qu'on... Monsieur Kreff connaît sans doute Goethe mieux que moi, mais...
Non, mais l'aspect autobiographique, on le trouve dans le thème de l'inconstance amoureuse qui traverse toute l'œuvre du jeune Goethe. Hein, il y a le Faust, hein, auquel il travaille déjà. Il y a Clavigo. Hein, il y a le personnage de Weislingen, le Gott von Berlichingen. Et Goethe lui-même a dit qu'il avait ressenti, après sa rupture avec Frédéric Brion, un sentiment de culpabilité qu'il a traité, comme à son habitude, littérairement, en créant ces personnages d'inconstants. Une citation, « Pour la première fois, dit-il, la rupture a été mon fait, a été de ma seule responsabilité. » Il dit, enfin, en faisant allusion à ses amours antérieurs, « Gretchen hatte man mir genommen », ça c'est à Francfort, « Annette à Leipzig » hatte mich verlassen, hier war ich zum ersten Mal schuldig. Et puis, il dira aussi, plus tard, die beiden Marien in Götz von Berlichingen und Clavigo und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuiger Betrachtungen sein. Enfin, il ne faut pas exagérer. Il y a bien plus que ça dans le personnage de Clavigo et dans la pièce, et pas non plus exagérer la profondeur de ce sentiment de culpabilité. Goethe s'en est remis assez vite et a exploité littérairement avec sa mauvaise conscience. Je vais donner une anecdote. En 1773, il transmet à son vieux confident de Strasbourg, Salzmann, un exemplaire de Götz von Berlichingen en le priant de le remettre à la famille Brion. Et il ajoute, la pauvre Frédéric, j'ai traduit, la pauvre Frédéric se sentira quelque peu consolée de voir que l'infidèle, c'est-à-dire Weislingen, est mort empoisonné. Autrement dit, j'empoisonne Weislingen, mais moi je me porte fort bien. Voilà. Donc, voilà, il faut mieux finalement s'en prendre à son double littéraire qu'à soi-même, tout simplement, en passant.
Je voudrais simplement ajouter aussi que cette dimension autobiographique, on la ressort toujours à propos de Goethe. Et que je pense que ce n'est pas forcément là-dessus qu'il faut que vous focalisiez, il faut vous regarder les textes. Comment ils sont faits, comment les thèmes sont abordés, beaucoup plus que d'essayer de savoir qui se cache derrière qui, etc., etc. À mon avis, c'est un peu une perte de temps.
Juste encore un ajout, c'est par rapport à la définition du classique ou à la mise en scène du classique, il y a quand même une auto-stylisation de Goethe qui est assez qui est notable. Quand il parle de poétische Beichte, qu'on relit cet extrait que vous venez de lire, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de jeu, de clin d'œil de Goethe à son public et qui nourrit aussi sa propre renommée, sa propre mythologie. Enfin, donc.
Moi, j'avais une petite question par rapport à une formulation que vous avez utilisée, Monsieur Musel, après, même si tout le monde peut répondre aussi, évidemment. Vous avez dit à un moment que Clavigo, et que c'est précisément cela qui le rend tragique, est quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde et qui est sincère avec tout le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire, faire une autre lecture et dire, en fait, Clavigo n'est pas vraiment sincère, mais plutôt que c'est plutôt le versant, on va dire, opportuniste qui le caractérise, ou arriviste, dans la mesure où il dit dès le premier acte mein Plan ist der Hof, et après il y a le, aussi quand il dit à Beaumarchais au deuxième acte so in meinen Augen und in den Augen der Welt wieder zum ehrlichen Mann zu werden, donc il est obsédé par l'image qu'il renvoie de lui-même aussi
Si vous faites de cet homme quelqu'un qui est simplement un opportuniste, qui va dire ce qu'on veut entendre, toute dimension tragique disparaît et il n'a plus aucun intérêt psychologique. Ça devient simplement un menteur permanent. Et je pense que justement, ce qui est intéressant chez Clavigo, c'est qu'au moment où il voit Beaumarchais, il ressent au plus profond de lui-même la culpabilité qu'il a vis-à-vis de Marie. Et que c'est cette culpabilité qu'il ressent vraiment. Il joue pas à ce moment-là. Le seul moment où il va, effectivement, où on ne sait plus très bien où il est, c'est dans le troisième acte. Lorsqu'il est en face de Marie, il vient et il voit une mourante. Parce que je crois que c'est ça le problème, il voit une mourante. Il comprend tout de suite qu'elle va mourir. Et alors à ce moment-là, il se grise de parole. Il se grise de parole pour essayer d'aller par-dessus l'angoisse qu'il éprouve, quoi. Et puis dès qu'il retourne chez Carlos, il finit par lui dire... Je sais plus ce que je veux, je suis rien du tout. Il joue pas à ce moment-là. Hein, fais ce que tu veux. Hein, fais de moi ce que tu veux. Hein. Et de nouveau au cinquième acte, lorsqu'il est devant ce cadavre et qu'il sait que c'est lui qui l'a tué, enfin il n'est pas tout seul, hein, je vous ai déjà dit, à mon avis, ils sont tous plus ou moins coupables de la mort de cette pauvre fille. À ce moment-là, de nouveau, il est sincère. Si vous en faites quelqu'un qui n'est qu'un hypocrite ou qu'un opportuniste, à ce moment-là, il n'a plus aucune épaisseur psychologique. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut partir du principe qu'il finit toujours par être d'accord avec les gens, mais en croyant qu'il est d'accord avec les gens. C'est-à-dire qu'il est, je dirais pas comme Gide, que le véritable hypocrite est celui qui ment avec sincérité, mais il est, au moment où il parle, il croit ce qu'il dit. Il le croit vraiment. Et puis 5 minutes après, ben, il croit aux choses. C'est un peu ça le problème. Hein. Et c'est de ça dont il ne sortira pas, en fin de compte.
Oui, je crois. Je pensais aussi à la figure du caméléon. Il me semble bien qu'on utilise pour Weislingen hein, le terme du caméléon. Et c'est aussi le drame de Clavigo, ses sincérités successives, c'est aussi le problème de l'impossibilité de trouver une identité qui va de pair avec son impossibilité de trouver un langage poétique. Et ça, tu l'as bien dit, tantôt il parle Empfindsamkeit, tantôt il parle Sturmundrang, il parle à chaque fois très bien chaque langage, mais il n'arrive pas à trouver le sien. Alors à la fin, il trouve peut-être un langage shakespearien, mais c'est aussi une parodie de Shakespeare. Et donc, il ne trouve pas son langage. Et c'est peut-être aussi son drame artistique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrais. Pardon.
Donc, ce n'est pas un artiste.
Ah non, authentique. Non, je crois qu'on est tous d'accord là.
Parce que là, c'est le pire de ce que vous pouviez dire contre lui. Hein. Il a tous les langages, et il n'en a aucun qui lui soit propre. Et oui, ça, c'est,
d'ailleurs, sa fonction n'est pas d'être artiste, sa fonction, c'est d'être publiciste.
Oui. Hein.
Il publie des articles et il en écrit, mais je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai écrit des articles dans ma revue que je suis un artiste. Quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Ce n'est pas Tasso, ça n'a rien à voir avec Tasso. Quoi.
Un Gelliata. Vous êtes un Gelliata, mon cher collègue, voilà. Parce que vous écrivez des articles en revue. Voilà. Et lui aussi. Il essaie d'influencer l'opinion, avant tout. Il n'écrit pas pour exprimer son moi profond. Hein. Non, il veut avoir de l'influence sur les gens, dans une bonne intention, parce que c'est un Aufklärer, hein, quand même. Sinon, on ne fait pas une revue de ce genre, pour répandre les sciences et améliorer le goût, introduire le bon goût en Espagne.
Il y a une dame là.
Je voudrais parler, c'est à propos de la mort. C'est à propos de la mort. Chez Clavigo, Monsieur Musel, vous avez dit qu'il avait l'angoisse de la mort, c'est l'angoisse du destin. Il a peur. Oui. C'est l'angoisse du destin. Or, si je fais la différence entre Clavigo et Tasso, Tasso, qui est un artiste, lui, il peut voir la mort comme quelque chose de destin. Tandis que Clavigo, non, il a peur parce que il est en présence de c'est une angoisse indicible, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de destin. Il découvre finalement, il parle beaucoup parce que c'est une forme de catharsis et il est angoissé, mais c'est tout, il est angoissé, il n'y a pas de destin. Enfin, pour ma part, je ne vois pas de destin chez Clavigo, alors que je verrais dans la mort plus de destin chez Tasso, parce que Tasso est un artiste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il faudrait parler.
Pour ce qui est de Clavigo, au moment où il est confronté à Marie qu'il n'a pas vue depuis un certain temps,
il
voit quoi ? Il voit le visage d'une mourante et il se dit c'est moi qui la tue. C'est moi qui la tue. D'ailleurs, il le dira à Carlos dans le quatrième acte. Il y a d'un seul coup, il y a la culpabilité qui ressort, quoi.
Je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on est face à la mort, dans ces conditions-là, on n'a même pas ce réflexe, absolument pas. C'est une épouvante, c'est quelque chose d'inexprimable, et on est, je dis, la réaction, c'est une forme de catharsis, c'est tout. Et le destin, on ne le voit pas. Il le voit après, peut-être, ensuite, il réfléchit, mais sur le moment, il ne peut pas le voir. Ce n'est pas possible.
Je ne suis pas dans la tête de Clavigo, donc je ne peux pas vous dire, mais il me semble assez clairement exprimé au quatrième acte que quand il la voit, il se dit « elle est dans cet état à cause de moi ». C'est moi qui l'ai mise dans cet état. Et par conséquent, bon, moi j'appelle ça de la culpabilité, on peut trouver un autre mot si vous voulez, mais je crois qu'il y a à la fois, évidemment, il y a le visage de la mort. La mort, quand on la voit en face, je ne pense pas qu'on soit très content. Mais en plus, il y a cette mort qu'il provoque lui-même, quoi. Qu'il a lui-même provoqué. Et ça va revenir encore plus fort au cinquième acte. Parce que ce coup-là, elle est vraiment morte. Et qu'on l'a exposée dans son cercueil, et qu'il est devant ce cercueil, et qu'il voit cette fois le résultat de son incapacité à lui être fidèle ou à rompre. Il a rompu combien de fois ? On ne sait même plus très bien combien de fois il a rompu avec elle. Il s'en va, il revient, il repart, il revient. Enfin bon, il y a ce sentiment de... Oui, voilà le résultat de ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, effectivement, il va en mourir lui aussi.
Oui, il va en mourir. Mais je pense que c'est un thème, finalement, qui a été repris, par exemple, je pense à l'histoire de l'abbé de la Trappe, qui a été traité par Chateaubriand.
Oui.
Ce trappiste...
Oui, mais d'abord, bien sûr, mais on n'a pas du tout affaire au même genre de personnage.
Il est en présence du cadavre de la jeune femme, enfin de sa maîtresse, il a la même réaction. Il ne va pas se sentir coupable tout de suite. Il est épouvanté. Il est totalement épouvanté. C'est une angoisse indicible. Et moi, je retrouve dans le plateau,
mais c'est le même type. Vous pouvez quand même pas comparer le personnage de Chateaubriand qui devient un saint,
non,
qui a un caractère d'une force extraordinaire, non, avec ce pâle Clavigo. Enfin, quand même, c'est pas tout à fait la même chose.
On va pas le dire.
En plus, ce qui arrive à ce monsieur, attendez, je vous réponds. Ce qui arrive à ce monsieur, c'est qu'il entre dans la chambre de sa bien-aimée et elle est morte. On lui a déjà ouvert la tête et on a mis son cerveau dans un vase. Bon, alors, c'est Chateaubriand que je parle.
Non.
Ben, c'est possible, pas. Enfin, c'est comme ça que Chateaubriand le raconte.
Oui, parce que c'est le texte de Chateaubriand, mais en fait, non, on ne sait pas exactement.
Enfin, quoi qu'il en soit, je crois qu'on n'a pas du tout affaire au même type de personne.
Non, c'est tout à fait différent, mais pour moi, il y a le même type d'épouvante, de terreur devant l'inéluctable, devant la mort, voilà. C'est tout.
Il y a ça, mais à mon avis, il y a plus que ça.
C'est une conception, bien sûr. Enfin.
Merci. Monsieur Krebs, en parlant tout à l'heure, vous avez utilisé deux thèmes, à savoir, vous avez parlé de... Vous avez utilisé le mot parvenu et aussi vous expliquez que effectivement que c'est un off-clair. Moi, j'ai fini par me dire peut-être est-ce qu'on pourrait s'imaginer que Clavigo est disons off-clair parvenu. Ma première question. Enfin moi. Une première fois. Alors là le deuxième point c'est alors. Au-delà de l'aspect multifacette, multidimensionnel du personnage qui se réunit, et vous avez souligné le côté psychologique, tout ça, est-ce qu'on pourrait penser aussi que Clavigo apparaît comme également un personnage, je vais dire, disons, ein bürgerlicher Verräter. Also, je voudrais. Et si c'est le cas, pourriez-vous peut-être nous étayer avec quelques petits points?
Merci de cette intervention, de ces précisions. Bon, j'ai précisé que quand j'ai employé le terme de parvenu, je n'y mettais aucun sens péjoratif et j'ai proposé de le remplacer par le terme allemand, on n'a pas l'équivalent en français, je crois, de Aufsteiger, hein, quelqu'un qui vient d'en bas et qui... Alors, de nos jours, on parle de trahison de classe, hein, parfois, bien sûr, hein, de quelqu'un qui est un traître de classe, qui change de condition. Oui, c'est un peu vrai, hein, aussi, pour, dans la mesure où il veut réussir à la cour, hein, il faut qu'il adopte les valeurs de l'aristocratie. Mais en même temps, il sait quand même, évidemment, en tant qu'Aufklärer, publiciste, c'est un bourgeois, hein, par ses origines et aussi par ses pensées, par sa sentimentalité. C'est ce qu'on a exprimé à plusieurs reprises dans les exposés, c'est qu'il ne peut pas il ne sait pas choisir, hein, il est incapable de choisir entre son ambition et le programme que lui propose Carlos, un programme de réussite sociale totalement amoral, hein, pas immoral, mais amoral. On se place au-dessus des lois ordinaires si on veut être un grand homme. Et Clavigo dit piteusement, hein, « Ich bin ein kleiner Mensch », hein, parce qu'il sent qu'il n'a pas cette capacité-là. Donc, il est clivé, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, aussi du point de vue des valeurs, hein, entre les valeurs aristocratiques et ces valeurs bourgeoises que toute la littérature du XVIIIe siècle on développait. C'est pour ça que j'ai cité Mina von Barnhelm, qui me semble tout à fait caractéristique de ça, et puis qu'on retrouve aussi dans le Sturm und Drang. Mais justement, Goethe montre aussi, évidemment, que ces valeurs de la sentimentalité ont leurs limites, et durant toute la période, finalement, de la première décennie de Weimar, hein, il va quand même être à la recherche d'une autre éthique, hein, qui n'est pas l'éthique du... Enfin, qui n'est pas la morale du sentiment, qui à son avis, ne peut pas fonctionner, hein, c'est l'éthique de la responsabilité et de la Mensch, il frage une goutte, la limitation, et ça aboutit, le terme a été prononcé par la Entsagung, le renoncement, et le maestro, et tout ce qui suit. Donc, vous avez raison, je suis d'accord avec Mme Banco, a contrario, hein, on peut déjà dégager une morale et une éthique classique à partir de Clavigo, mais à contrario.
Oui, bonjour. Il me semble qu'à un moment dans l'acte 2, quand... au moment où Clavigo réalise que Beaumarchais est la sœur de Marie, là où il l'imaginait plutôt sans ressources, il réalise quel avantage il pourrait tirer de son mariage avec Marie, sachant qu'elle a un frère qui dispose d'un rang, etc. Et j'aurais voulu savoir quelle est la part que vous accordez à cette prise de conscience dans son revirement.
Est-ce que c'est
quelque chose qui est à négliger, ou bien est-ce que ça...
J'ai essayé d'attirer l'attention sur le fait que effectivement Beaumarchais fait beaucoup d'effets à Clavigo. Et tout le long de la pièce, il ne sera jamais critique vis-à-vis de Beaumarchais. Il y a une sorte d'admiration pour Beaumarchais. Alors que ça puisse aussi, déboucher sur un intérêt professionnel, je ne le nie pas, mais je crois que c'est encore plus profond que ça. C'est-à-dire que vraiment, on se demande d'ailleurs qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de Clavigo, parce que ça devient presque trouble, quoi, cette fascination qu'il éprouve pour Beaumarchais, quoi. Est-ce qu'il ne préfère pas, en quelque sorte, le frère à la sœur, quoi. Puisque vous parliez d'homo-érotique à propos de Carlos et de Clavigo, il y a, chez Clavigo, quand il voit Beaumarchais, il fait une fixation sur Beaumarchais, quoi. Excusez-moi l'expression, mais il y a vraiment une fascination qu'il éprouve pour lui. Oui, ça, je crois que c'est vrai. Et du reste, ce qui est quand même frappant, c'est que, alors qu'il est en train de mourir, la seule chose qui lui reste à l'idée, c'est de sauver Beaumarchais. Et il demande à Carlos, c'est quand même pas mal non plus, Carlos, de l'aider à franchir la frontière pour rentrer en France. Donc, jusqu'au bout, il y a cette espèce de souci face à Beaumarchais, en fait. Et le seul moment où apparemment il est agressif avec Beaumarchais, c'est quand il le provoque en duel. Mais pourquoi le provoque-t-il en duel? C'est pour que l'autre le tue. C'est pas pour, pas pour une autre raison. Voilà ce que je pourrais vous répondre.
Le motif des frères ennemis qu'on retrouve dans aussi la dramaturgie du Jeu de Mondang. Hein, peut-être. Non, alors s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous avons un tout petit peu rattrapé le retard qui était le nôtre, très peu. Je remercie beaucoup les intervenants, en particulier pour leur respect du temps imparti.